Alors, les miracles de Jésus sont autant de manifestations, non seulement de sa grande miséricorde, mais également de sa grande puissance. Et les miracles qu'il a accomplis montrent jusqu'à quel point il éprouvait de la sympathie pour ceux qui souffraient et jusqu'à quel point il était disponible pour leur venir en aide. Croyons-nous que ce que le Seigneur Jésus a accompli dans le passé avec ses mains, il peut encore l'accomplir à travers nos propres mains, et ce, pour sa seule gloire. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez que vous êtes prête à faire en sorte que vos mains soient disponibles pour que le Seigneur puisse agir et se glorifier à travers vous en 2018? Bonjour Roger, ça va bien? N'est-il pas écrit qu'il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Et il est écrit dans Actes chapitre 11, verset 21, que la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Et devant la grandeur de l'appel de Dieu, vous est-il déjà arrivé de dire, pardon, Seigneur, viens m'aider, ton œuvre est trop importante pour moi, tout comme il l'a fait pour l'Église du premier siècle? Le Seigneur désire encore une fois, eh bien, faire en sorte que son royaume puisse progresser en 2018. Et l'Assemblée de Jérusalem reçut de Dieu la possibilité de s'agrandir de manière tout à fait extraordinaire lorsque Jésus dit à ses disciples, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Et Dieu leur a accordé une bénédiction incroyable qui, à vue humaine, leur semblait, frères et sœurs, presque impossible à réaliser. Souvenez-vous maintenant à qui le Seigneur prononçait ces paroles, à ces mêmes personnes qu'il avait lâchement abandonnées alors qu'il allait être crucifié. Et pourtant, c'était arrivé seulement quelques jours plus tôt. De plus, ces chrétiens n'avaient aucun moyen de communication moderne, comme nous en bénéficions aujourd'hui. Pas de téléphone, ni de télévision, ni Internet, ni Facebook, ni Twitter. Ce n'étaient pas non plus des gens qui avaient fait de hautes études. Et c'était des gens non plus qui n'étaient pas spécialement courageux. Et ils n'avaient pas un réseau d'amis important. Alors, comment ces gens ont-ils pu marquer l'histoire? Quand vous les regardiez, ces gens-là, eh bien, la moindrement personne éduquée de son époque n'aurait probablement pas engagé le trois quarts des apôtres qui ont suivi Jésus-Christ. Frères et sœurs, rien n'est plus puissant, ni aussi instructif et communicatif pour nous que la main du Seigneur. L'Église de Jérusalem a connu une croissance impressionnante parce que sa main était à l'œuvre avec eux. Je suis persuadé qu'en 2018, Dieu en Jésus-Christ veut utiliser sa main pour faire en sorte que l'Église de Dlin puisse progresser spirituellement. S'il vous plaît, si vous pouvez vérifier si votre téléphone est arrêté, tout le monde est éteint. Voilà. Bonjour Vanda. Aucune technologie ni aucune méthodologie ne peuvent égaler la puissance du Seigneur, parce que lorsque les Écritures parlent de la main du Seigneur, qu'est-ce qu'on entend par la main du Seigneur, chers amis? Quand les Écritures parlent de la main du Seigneur, elles font référence à la puissance de Dieu. Ouais. Elle fait référence à la puissance de Dieu. Quand Dieu étend sa main à un endroit, ça veut dire que sa main, il va agir avec puissance dans cet endroit. Et je crois sincèrement en 2018 que Dieu va agir avec puissance dans notre Église, qu'il va agir avec puissance dans vos vies, qu'il va agir avec puissance dans nos vies. Et en ce début d'année 2018, eh bien, le Seigneur, pour être capable d'agir avec puissance, il veut aussi qu'on lui permette d'examiner nos propres vies pour savoir s'il n'y a pas d'obstacle, s'il n'y a rien ou quoi que ce soit qui pourrait l'empêcher justement de manifester sa puissance à travers nous. Dieu ne recherche pas les personnes les plus douées et encore moins les plus talentueuses. Il recherche surtout celles qui ont un cœur tout entier à lui. Demandons jour après jour que la main du Seigneur soit sur nous et nous verrons, frères et sœurs, sa gloire se manifester au milieu de nous. Je vous invite à prier. Prions. Seigneur, ce matin, nous allons parler de tes mains. Seigneur, de ce que tu accomplis à travers tes mains, de ce que tu peux faire à travers tes mains, de la puissance que tu peux manifester à travers tes mains. Mais surtout, Seigneur, nous amener à réaliser que ce que tu réalises à travers tes mains, tu veux le faire à travers les mains de tes propres enfants. Tu veux faire en sorte, Seigneur, que tes mains, toi qui étais venu non pas pour être servi, mais pour servir, tu veux faire en sorte que nos mains aussi puissent être utilisées pour servir et non pas pour être servies. Seigneur, nous voulons être rendus semblables à notre Maître. Nous voulons, Seigneur, manifester, Seigneur, la gloire du ressuscité dans nos vies. Seigneur, que tu puisses agir avec puissance et étendre ta main sur nous. afin, Seigneur, que le beau nom, ton beau nom soit élevé et glorifié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Premièrement, bien, frères et sœurs, les mains du Seigneur Jésus nous protègent. Nous sommes en sécurité entre ses mains. Dans le Deutéronome, chapitre 33, verset 3. Ce matin, c'est un thème, hein, c'est le thème des mains, donc on ne prend pas une péricope, c'est-à-dire un passage pour décortiquer les versets, mais on va regarder pour la main, donc essayez de suivre. Je vais prendre mon temps, c'est pour ça que je garde mes yeux sur les feuilles. Essayez de retenir simplement les versets, sinon vous irez sur le site. Il est écrit dans Deutéronome 33, 3, que tous ceux qui appartiennent au Seigneur sont dans sa main. C'est extraordinaire, ça, non? Est-ce que vous réalisez ça? Est-ce que vous réalisez ça, frères et sœurs? Que tous ceux qui leur appartiennent, eh bien, la puissance de Dieu, elle est disponible pour ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur dit à Étan, l'Exarite, dans le psaume 89, 22, « Ma main te soutiendra. » Amen. Frères et sœurs, la main du Seigneur va vous soutenir. La main du Seigneur est prête à me soutenir. Ceux qui cherchent à se réfugier en lui et à recevoir le salut que Dieu leur offre en Jésus-Christ sont gardés par la main toute puissance du Seigneur Jésus-Christ. J'ai lu une fois quelque chose d'assez particulier. Il y avait un guide qui conduisait des gens à travers les Alpes suisses. Arrivés à une hauteur de plus ou moins 2000 mètres au-dessus de la vallée, ils arrivèrent au bord d'un précipice où de l'autre côté, il y avait un rocher à plus ou moins 1,20 m de distance. C'est-à-dire qu'ils étaient au bord du précipice et là, bien, il y avait un rocher qui était de l'autre côté à 1,20 m. Et il fallait que les gens passent au-dessus alors que tu regardes en bas et puis à peu près 2000 mètres, c'est le vide total, quoi. Alors, le guide sauta à bord, à partir du bord du précipice pour retomber sur le rocher. Il l'avait déjà fait à plusieurs reprises. Puis, se retournant vers ceux qui l'accompagnaient, il leur tendit la main en leur disant, « Allez, donnez-moi la main, saisissez ma main, chacun votre tour. » Voyant leur hésitation et voulant les rassurer, il ajouta, « Mes amis, faites-moi confiance, cette main n'a jamais échappé quelqu'un. Il en est de même avec le Seigneur Jésus. Ses mains sont une sécurité pour nous. Et il n'a jamais rejeté ni échappé quelqu'un qui vient à lui par la foi. Amen. Oui. Chers amis, la destinée du royaume de Dieu et de ce monde est placée dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le premier chapitre de l'Apocalypse, Jean écrit au verset 16. Écoutez bien ce que je vais dire. C'est Jésus, il tenait 7 étoiles dans sa main droite. Et au verset 20, il est écrit que ces 7 étoiles sont les anges des 7 églises qu'il avait mentionnées au chapitre 2, 3, 4. Le destin de la planète Terre, de toute la création de Dieu et du royaume de Dieu est placé dans la main toute-puissante du Seigneur Jésus-Christ. S'il tient dans sa main les profondeurs de la Terre, psaume 95, 4, vous imaginez, il tient dans sa main les profondeurs de la Terre. Il n'aura aucune difficulté à vous garder et à me garder dans sa main, n'est-ce pas? C'est logique, hein? Qu'en pensez-vous? Si ses mains sont une sécurité pour nous, deuxièmement, ses mains sont aussi capables de sauver quiconque croit en lui. Dans Matthieu chapitre 14, versets 28 à 31, nous retrouvons Pierre dans une barque. Prenant la parole, il dit à Jésus, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. »« Viens, » répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il remarqua le vent, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer dans l'eau, il s'écria, « Seigneur, Seigneur, sauve-moi! » Et aussitôt, le Seigneur étendit la main, encore la main de Dieu. Dieu étend sa main, il le saisit et lui dit, « Comme ta foi est petite, pourquoi as-tu douté, Pierre? Pourquoi as-tu douté? » Frères et sœurs, vous imaginez, on est dans la présence d'un apôtre, là, ça fait plus ou moins 3 ans qu'il est avec le Maître, qu'il avait accompli des prodiges, qu'il a vu guérir des gens, qu'il a vu faire marcher des gens qui étaient infirmes, donner la vue aux aveugles, rendre le son aux sourds, accomplir toutes sortes de miracles. Et Jésus lui dit, « Comme ta foi est petite, pourquoi as-tu douté? » Frères et sœurs, c'était des gens qui marchaient jour après jour avec le Seigneur. À combien plus forte raison quand on se lève et qu'une journée on oublie de prendre notre parole pour se rappeler qu'on doit marcher avec lui jour après jour, si on veut qu'il nous accompagne. Dans combien de plus fortes raisons? Vous imaginez notre foi, le doute, comment il vient nous prendre rapidement. Vous avez vu Pierre? Pierre, il a enlevé ses yeux sur Jésus. Il a commencé à regarder aux circonstances extérieures. Il a commencé à entendre le bruit du vent. Il a commencé à voir la tempête. Il a commencé à voir les vagues. Et là, il n'était plus possible pour Pierre d'avancer. C'est un peu la même chose pour nous, hein? Pierre avait gardé ses yeux sur les éléments extérieurs et non pas sur la personne qui était capable d'arrêter que ces éléments puissent se déchaîner. Et frères et sœurs, c'est la même chose pour nous. Quand il arrive une tempête dans nos vies, quand les vagues menacent de nous envahir, eh bien, il est important pour nous de ne pas garder nos yeux sur les vagues, ni sur la tempête, mais de garder nos yeux sur celui qui a l'autorité pour calmer tous ces éléments-là. Et c'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça que le doute s'installe de moins en moins à travers notre foi, qui est appelée à progresser semaine après semaine. Amen. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile. C'est pas nécessairement facile. C'est pas toujours facile non plus d'essayer d'enlever nos yeux sur les tempêtes. Il y a des tempêtes qui sont violentes. Il y a des petites tempêtes. Mais le Seigneur, à travers ces tempêtes-là, c'est à travers ces tempêtes-là que le Seigneur nous apprend à grandir. Il a dit à Pierre, comme ta foi est petite, pourquoi as-tu douté? Il n'a pas dit à Pierre, bien, parce que tu as une petite foi, puis parce que tu as douté, bien, calme, quoi. Va-t'en dans le fond, noie-toi. C'est pas ça qu'il a dit, hein. Et c'est la même chose pour nous, hein. Quand il arrive qu'on se détourne nos yeux, eh bien, à partir du moment qu'on prend nos yeux sur lui, on s'aperçoit d'une chose, c'est que sa main est tendue pour nous sortir, pour nous ramener au calme. Si ses mains sont une sécurité pour nous, pardon. Alors, nous pourrions nous tourner vers toutes sortes de philosophies qui sont supposées guider ou aider l'humanité à vivre en paix, à fraterniser et à connaître la prospérité, ou encore à nous examiner et essayer de trouver en nous-mêmes les réponses aux besoins des hommes. Mais combien il est loin préférable d'imiter l'apôtre Pierre et de se tourner vers le Seigneur en disant, « Seigneur, sauve-moi. Seigneur, aie pitié de moi. » C'est ça que ça veut dire, hein? « Seigneur, sauve-moi, aie pitié de moi. » Oui. Si ses mains sont une sécurité pour nous, si elles nous sauvent, eh bien, ses mains sont des mains qui guérissent. Dans Matthieu chapitre 8, versets 14 à 15, vous pouvez tourner, si vous voulez, dans Matthieu chapitre 8. On retrouve le Seigneur Jésus dans la maison de Pierre, où la femme de Simon-Pierre a de la fièvre. Jésus va lui toucher la main et la fièvre va la quitter. Bon, ben pourquoi qu'il ne fait pas la même chose aujourd'hui? Parce qu'on a des médicaments qui chassent la fièvre. Voilà. Hein? Vous savez, un miracle souvent arrive quand on a tout essayé. Hein? Souvent, là, la main de Dieu, on vient voir le Seigneur, puis là, Dieu intervient dans nos vies. Aujourd'hui, on a mal à la tête, on n'a pas besoin de prier le Seigneur. Souvent, les gens ne prient pas le Seigneur, ils prennent un dafalgan ou un autre médicament. Et voilà, alors on n'est pas passé par le Seigneur. Mais ici, eh bien, on est loin de la médecine d'aujourd'hui. On est loin de la science, de ce que la science possède aujourd'hui comme connaissance. Et il est écrit que Jésus va lui toucher la main et la fièvre va la quitter. Et quand le soir fut venu, on amena à Jésus un grand nombre de personnes tourmentées par des esprits mauvais et des gens qui étaient atteints de toutes sortes de maladies. Il posa ses mains sur eux et il les guérit. Le Seigneur a exercé un double ministère sur la terre. Il a annoncé le message du salut, celui du royaume de Dieu. Et il a été aussi un grand médecin en guérissant un nombre incroyable de malades. Vous savez, il faut faire la distinction entre la maladie et aussi les conséquences de la vieillesse. Hein. Quand notre vue baisse, ce n'est pas parce qu'on est malade. Hein. C'est parce que ça fait partie de notre vieille tente qui s'use. On est dans un corps mortel. Hein. Oui, vous êtes d'accord avec ça? Quand l'ouïe commence à baisser, c'est pas parce qu'on est malade. Hein. C'est parce que ça fait partie d'un corps qui est en train de... Comme Paul dit, hein, les coutures de la tente sont en train de lâcher, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'avec l'âge, ben, il y a des éléments qui se dégradent dans notre corps et finalement, ben, ça se détériore. Je ne parle pas des abus qu'on a faits dans notre vie et qui provoquent des maladies dans nos corps, mais je parle de choses qui sont tout à fait naturelles, quoi. Tout à fait naturelles qui nous arrivent et qui ne sont pas nécessairement des maladies, mais qui font partie finalement du processus de vieillissement. Et la science, eh bien, nous aide à ce niveau-là. Quand quelqu'un, son cœur ne bat pas trop vite, hein, eh bien, on donne un pacemaker. En français, je me souviens pas c'est quoi, mais on pose un pacemaker, on pose d'autres choses à d'autres personnes. Mais c'est Dieu qui permet dans sa sagesse à la science de découvrir ces choses-là pour prolonger la vie des gens. Et je me dis toujours, ben, pour prolonger la vie des gens, pour qu'ils puissent avoir un jour, eh bien, le privilège d'entendre la parole de Dieu, c'est ça. Maintenant, la science, elle ne... Si on veut parler spirituellement parlant, la science ne prolonge pas vraiment la vie des gens parce que le jour où cette personne-là devait mourir, c'est déjà écrit dans le livre de vie, c'est déjà écrit dans le livre de Dieu. Donc, le fait qu'elle prolonge, c'était quand même les jours qui avaient été prévus par Dieu pour que cette personne-là vive sur la terre. Voilà. Voilà. Mais, pardon, mais les mains de Jésus, eh bien, ce sont des mains qui guérissent. Un jour, Jésus arriva à Bethsaïda avec ses apôtres. On amena à Jésus un aveugle et on le pria de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux de cet homme, posa les mains sur lui et lui demanda, « Peux-tu voir quelque chose? » L'aveugle leva les yeux et dit, « Je vois des hommes, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Ils voyaient embrouillés. Et Jésus posa de nouveau les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci regarda droit devant lui, il était guéri, il voyait tout clairement. Moi, je vois une application spirituelle dans ça, hein, c'est la suivante. Souvent, on est des jeunes chrétiens, on lit la parole, et quand on la lit au tout début, là, surtout avec le langage évangélique qu'il y a dedans, hein, le langage de Canaan, ben c'est pas nécessairement clair, hein, c'est souvent embrouillé. Hein. Et qu'est-ce qui arrive? C'est quand on commence à la relire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, que là, ça commence à devenir de plus en plus clair. C'est toujours de plus en plus clair à chaque fois. Si vous voulez, concentrez-vous simplement sur un chapitre pendant un mois, relisez-le à chaque jour. C'est incroyable ce que le Seigneur va vous révéler pendant ce mois-là à travers un seul chapitre. Ouais. Alors, l'idée, c'est pas de lire la Bible pendant un an, réussir à lire toute la Bible en complet pendant un an, parce que c'est beau de la lire pendant un an, mais si vous vous souvenez pas de ce que vous avez lu, ben ça ne vous a rien donné, vous avez simplement lu. Ce qui est important, c'est de méditer les Écritures. Mais prenez un passage dans les Écritures, simplement un chapitre, commencez avec les Évangiles, prenez un chapitre, relisez-le, méditez-le, et vous allez voir qu'un dimanche, vous serez peut-être capable de venir ici en avant. Hein? Vous allez sûrement être capable de venir en avant et apporter ce que le Seigneur vous aura confié pendant ce mois-là pour le bénéfice des frères et sœurs en Christ. Amen.
Amen.
Oui. Puis-je souligner la différence qu'il y a entre la foi chrétienne et la philosophie grecque? À l'époque de Jésus, eh bien, la philosophie grecque, les grands maîtres régnaient encore, et on regardait le corps humain avec mépris. En élevant l'esprit et l'âme, ils méprisaient le corps humain. Et la foi chrétienne enseigne tout le contraire. Elle met en lumière non seulement l'évangile de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, mais elle gratifie ou donne de la dignité à la vie humaine et au corps humain. Nous retrouvons à travers les quatre évangiles plus de 36 exemples du ministère de guérison de notre Seigneur. Il a été envoyé par Dieu pour restaurer une humanité brisée. Il est le grand médecin, frères et sœurs. Pouvez-vous penser à un plus grand hommage fait au corps humain que celui de voir Dieu devenir un homme dans la personne de Jésus-Christ, né passé par les mêmes souffrances, avoir faim comme tout le monde, passer par tout ce qu'on a passé, Dieu venant dans ce monde en chair et en os, frères et sœurs, il n'était pas obligé de le faire, Dieu venant dans ce monde en chair et en os. Rappelez-vous, lorsque le Seigneur Jésus envoyait ses disciples, il leur donna une double tâche. Premièrement, annoncer l'Évangile, c'est-à-dire annoncer la venue du royaume de Dieu, et deuxièmement, guérir les malades. Et peu importe où l'Évangile est prêché, vous trouverez des gens qui sont libérés de leur misère, de leur abus, et qui sont guéris de toutes sortes de maladies. Dieu peut guérir en Jésus-Christ toutes les maladies, mais il ne promet jamais de guérir toutes les maladies. Il sait ce qui est le meilleur pour nous. Ça, c'est vraiment important de saisir ça ici. Ça va éviter qu'on développe une frustration épouvantable ou en pensant que Dieu nous aime moins qu'un autre. Dieu peut guérir toutes les maladies, mais il ne veut pas nécessairement guérir toutes les maladies. S'il peut se glorifier à travers une personne qui est malade, autrement que si elle était en santé, eh bien, Dieu va permettre que cette personne-là soit atteinte par la maladie, et ça, pour la seule gloire de son nom. Chers amis, on doit penser une chose, et c'est difficile pour nous en tant qu'êtres humains qui répugnons de souffrir, qui répugnons de tomber malade, mais le but de Dieu, c'est de se glorifier à travers ses enfants. Et les moyens qu'il prend, ils sont inimaginables. Les voies de Dieu sont impénétrables, frères et sœurs. Alors, si à un moment donné, vous tombez malade, il ne faut pas penser que c'est parce que vous avez fait des abus. D'abord, ça fait partie d'un corps mortel qui est sujet à tomber malade. Mais aussi, si ça dure un peu plus longtemps, eh bien, c'est de laisser le Seigneur travailler aussi dans votre vie et essayer de voir pourquoi, Seigneur, tu me donnes ce temps d'arrêt. Vous savez, des fois, on vit dans un monde tellement rapide, hein, qui court. Hein. Le monde ne marche plus, il court. Et souvent, quand on court, là, on n'a pas le temps de s'arrêter. Hein? Le Seigneur, des fois, il permet qu'un petit microbe vienne nous visiter. Puis pendant 15 jours, bien, on est obligé de rester à la maison. Et là, bien, on revit dans la parole pour se rappeler bien, les belles promesses, comme notre sœur a dit tantôt, quelques promesses qui sont dans la parole de Dieu. Pardon. Dans l'Empire romain, dans l'Antiquité, vous ne trouviez aucun hôpital ni aucune clinique. Il n'y avait pas de médecin pour les pauvres, pas un seul. Mais partout où l'Évangile de Christ a fait son œuvre, vous trouverez un hôpital, vous trouverez une clinique, et vous trouverez un médecin chrétien. Lorsque le docteur Goldie arriva au Nigeria pour exercer son ministère, les gens jetaient dehors les membres de leur famille qui avaient la lèpre, les condamnant ainsi à vivre isolés et à mourir de faim. Le docteur Goldie a recueilli et a réuni tous ces gens, y compris les enfants qui avaient été exclus de tout contact avec leurs semblables. Il s'occupa d'eux, et il les servit jour et nuit pour les soulager de leur misère et de leur isolement. Il finit eux-mêmes par l'aider à construire de petites églises pour se réunir ensemble et à mettre sur pied de petites maisons pour vivre de façon décente en utilisant principalement de la boue. C'est tout ce qu'ils avaient de la boue. Donc, monter des murs en boue, faire en sorte d'attendre que ça sèche. Bon, à construire un toit là-dessus. Il y a des endroits dans le monde, c'est aberrant. Hein? Les taxes ne coûtent pas cher, mais ça ne coûte rien. Ils n'ont rien, quoi. Hein? Ils n'ont rien. Hein? Moi, je dis toujours à quelqu'un qui se plaint qu'ici, on paye trop de taxes, mais je lui dis d'aller en Haïti. Hein? Vous ne payez pas de taxes en Haïti. Mais vous devez faire à peu près 100 mètres pour aller aux toilettes, puis vous prenez l'eau, elle passe. Hein? Il n'y a rien. Il n'y a aucun service en Haïti. Hein? Rien. Alors, c'est vrai qu'ils ne payent pas de taxes. Je ne vous dis pas que les taxes sont trop... Je ne suis pas là pour discuter des politiques de nos gouvernements, mais simplement pour essayer d'éviter de toujours envier ce qui est le meilleur chez le voisin. Il y a des endroits qui sont beaucoup pires que nous. Et dans la crise, on est censé vivre une crise depuis 2008. Eh bien, même s'il y a des prix qui ont bougé, moi, je dois dire qu'on ne la sent pas vraiment, la crise, quoi. On ne la sent pas vraiment. Dieu a béni, en tout cas, malgré tout, Dieu a béni la Belgique parce qu'il y a des pays qui s'en tirent beaucoup plus mal que nous. Et on doit quand même se penser de rendre grâce à Dieu pour ça, même si on voudrait vivre encore un petit peu plus au-dessus, ou avoir une qualité de vie encore meilleure. Frères et sœurs, souvent ce qui arrive dans la vie, les crises et tout ça, c'est souvent la conséquence de décisions irréfléchies de différentes personnes qui nous ont dirigés dans le passé. Dean Plum enseignait à l'Université d'Oxford, il était aumônier à l'hôpital de Londres. En 1864, il a écrit un cantique dont le titre est le suivant, « Ton bras, Seigneur, dans les jours anciens ». Un cantique qui était pour être chanté à l'hôpital. Regardez ce qu'il dit, je vais vous lire le refrain ici. « Ô Seigneur, ton bras dans les temps anciens était fort pour guérir et sauver. Il triomphait de la maladie et de la mort, des ténèbres et de la tombe. C'est à toi que sont allés les aveugles, les muets, les paralysés et les boiteux, les malades fiévreux et les lépreux avec leur corps en état de décomposition. Frères et sœurs, Jésus n'avait pas peur de toucher aux autres. La peau du lépreux ne les répugnait pas et il n'a pas hésité à laver les pieds poussiéreux de ses disciples dans la chambre haute. Et maintenant, il veut nous utiliser pour adresser à nos contemporains le même message d'amour. Ouais. » Frères et sœurs, les gens aujourd'hui, vous savez ce qu'ils ont besoin? D'un contact. Les gens ont besoin d'un contact. Vous vous promenez sur l'autoroute, ils sont quatre personnes dans la voiture, vous avez le chauffeur qui regarde en avant, j'espère qu'il conduit en regardant en avant. Hein? Ouais. Ouais. Vous avez la femme qui est sur son iPad, et vous avez deux écrans en arrière, deux écrans vidéo, et chaque enfant regarde un film, quoi. Oui. Oui. Il n'y a personne qui se parle dans la voiture, hein? Oui. Oui. Oui, c'est comme ça. On est dans cette société-là, quoi. Et maintenant, l'Organisation mondiale de la santé s'apprête à déclarer comme maladie, comme addiction, ceux qui passent plus que tant d'heures par jour sur des jeux vidéo, sur leur ordinateur. Oui. Des gens qui sont addicts de jeux vidéo. On est dans un monde où la communication est répandue partout, on en a partout, mais où les gens se parlent de moins en moins, où les gens sont super, super isolés. Et nos hôpitaux psychiatriques en sont remplis. Les gens qui ont simplement besoin d'être visités, simplement d'avoir besoin d'un contact humain, c'est tout ce qui leur manque, un contact humain. Et l'Évangile, c'est quelque chose qui est humain, c'est quelque chose qui amène les gens à être en contact les uns avec les autres, mais surtout à entrer peut-être pour la première fois en contact avec le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ouais. Ses mains guérissantes font toujours partie de son ministère. Si ses mains sont une sécurité pour nous, si elles nous sauvent et si elles nous guérissent, les mains du Seigneur sont aussi des mains qui bénissent. Dans Marc chapitre 10, verset 13, vous pouvez aller dans Marc chapitre 10, verset 13, si vous voulez. Marc 10, oui. Des gens vont amener à Jésus des enfants pour qu'il pose les mains sur eux. Mais les disciples vont leur faire des reproches. Et quand Jésus va voir cela, il fut très indigné. Louis II traduit par « il s'indigna », mais le verbe « agathnatkeo », je ne dis pas souvent des mots grecs, mais je vais sortir celui-là ce matin pour commencer l'année. Eh bien, ce verbe-là, finalement, il signifie « être tellement indigné que cela nous fait entrer dans une grande colère ». C'est ce que veut dire ce mot-là. Ce n'est pas juste « il s'indigna », mais derrière ça, il faut voir la colère du Seigneur. Et vous remarquerez une chose, à chaque fois que le Seigneur s'y met en colère, le Seigneur Jésus, c'était toujours des choses concernant le royaume de Dieu. Toujours. Quand il s'est mis en colère, qu'il a chassé les vendeurs du temple, écoutez, qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous avez fait de la maison de mon père, qui est une maison de prière, une caverne de voleurs, quoi. Vous venez vendre, vous amenez vos moutons ici, vous amenez vos bestiaux ici, et vous salissez finalement le temple de Dieu, quoi. Et là, il s'est mis dans une violente colère. Et ici, il va se mettre en colère, pourquoi? Parce que les disciples vont tout faire pour empêcher les enfants de venir le voir. Et il va dire à ses disciples, versets 14 à 16, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. » Ensuite, il prit les enfants dans ses bras, il posa ses mains sur chacun d'eux et les bénit. Ouais. Frères et sœurs, Dieu en Jésus-Christ veut bénir vos enfants. Amen. Dieu veut les bénir. Et la plus grande bénédiction, c'est de leur accorder le salut en Jésus-Christ. Je le rappelle, je l'ai déjà dit, toute bénédiction est une grâce de Dieu. Voilà pourquoi le salut est une grâce de Dieu. C'est une bénédiction que Dieu accorde à quiconque entend l'Évangile, le message du salut, et à quiconque prend une décision de dire, « Moi maintenant, voilà, je me repens de mes péchés, je me détourne de mes voies, et puis j'accepte la voie que Dieu me trace en Jésus-Christ. Ouais. » Je peux comprendre la réaction des disciples ici. Jésus était occupé, il avait tellement à faire. Pensez à tout ce qu'il avait dû faire. Il avait confondu les pharisiens. Il avait fait le ménage dans le temple en chassant les vendeurs qui s'y trouvaient. Il avait pris beaucoup de temps pour prêcher aux foules. Et il avait guéri tellement de malades. Et quand on va lui apporter ses petits-enfants, Marc 10, verset 10, Jésus se trouvait dans une maison en train de répondre aux questions de ses disciples. Hey, c'est important, c'était ses disciples. Qui vient nous déranger? Mais pourquoi vient nous déranger? On est en train d'être enseigné par le maître. Ils ont probablement voulu empêcher ces gens qui arrivaient avec leurs enfants. Ils voulaient simplement les empêcher d'embêter le maître parce qu'il était en train de les enseigner. Et les disciples ne voulaient sûrement pas être dérangés à ce moment-là. Alors, ils vont chasser les enfants, nous dit le texte. Et cela déplut grandement au Seigneur Jésus. Et il va prendre les enfants dans ses bras, posa les mains sur chacun d'eux et il va les bénir. Ouais. Pas extraordinaire, ça? Hein? Maintenant, enlevez-vous dans la tête là, qu'on est juste avec Jésus, hein? Pensez, dans son 100% homme, dans son 100% Dieu, c'est Dieu qui prend les petits-enfants dans ses bras, quoi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire comment notre Père Céleste est tendre, comment notre Père Céleste, il est doux, que quand on marche dans ses voies, on n'a rien à craindre de notre Père Céleste. Ouais. Il nous aime tellement. Ouais. Il nous aime tellement. Et vous savez, peu importe l'âge qu'on accepte le Seigneur Jésus, même quand on est adulte, hein, ce que le Seigneur veut faire en Jésus-Christ, il veut faire de nous, non pas des hommes adultes, il veut faire de nous ses enfants, qui vont grandir, qui vont devenir des adultes en lui, et non pas avec ce que le monde nous a donné, non pas avec ce que le monde, on a reçu du monde. Ouais. Chers amis, nous voyons dans ce passage jusqu'à quel point le Seigneur aime les petits-enfants. Il nous dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas. » Car le royaume de Dieu est pour ceux qui le rassemblent. Oui. Je peux vous affirmer qu'une des choses que j'apprécie le plus en tant que pasteur de cette église, c'est lorsque je vois un père et une mère venir me voir avec leur bébé en me disant, « Pasteur, nous aimerions présenter notre bébé au Seigneur et demander à Dieu de nous donner la patience et les forces dont nous avons besoin pour l'enseigner dans ses voies. » Jésus dit, « Le royaume de Dieu est pour ceux qui le rassemblent. » Oui. Et c'est important. Est-ce que vous avez gardé votre cœur d'enfant aujourd'hui, en 2018, ou si le monde a tellement laissé de cicatrices dans votre cœur, vous avez été tellement déçu par les hommes, tellement déçu par les femmes, que vous ne voulez pas faire ce pas de foi parce que vous avez peur que Dieu va vous décevoir. Dieu ne vous décevra jamais. Ouais. Moi, j'ai déçu Dieu souvent dans ma vie, mais je peux dire qu'en 33 ans de vie chrétienne, Dieu ne m'a jamais déçu. Ouais. Et je pense qu'on pourrait tous dire la même chose. Ouais. La plus grande déception qu'on peut avoir dans nos vies, et qu'on entend souvent quand les gens sont en train de mourir, je regrette de ne pas en avoir fait assez pour le Seigneur. Je regrette d'avoir perdu mon temps avec les choses du monde, alors que le Seigneur m'appelait à m'occuper des choses du royaume de Dieu. Ouais, ouais. On a tous des déceptions dans nos vies par rapport à notre vie spirituelle. Et gloire à Dieu qu'on vit, on est sous la grâce, sous sa grâce. Et gloire à Dieu encore une fois qui nous accorde son pardon à chaque fois qu'on vient confesser nos déceptions devant lui, quoi. Parce que c'est lui finalement qui est touché directement. C'est lui qui nous appelle, hein, c'est pas le pasteur. Hein. C'est lui qui nous donnait des dons. Qu'est-ce qu'on fait avec ces dons? Hein? Ouais. Quelle déception hein, qu'il pourrait. Combien il pourrait être déçu de voir que ses enfants ne pratiquent pas le don spirituel qu'il leur a donné. Et combien on peut être déçu, nous, de ne pas mettre en pratique notre don spirituel. Non pas parce qu'on ne veut pas, parce qu'on est trop préoccupé à faire des choses dans lesquelles le monde nous a plongés et qui sont appelées à périr, nous dit la parole. Alors, on est déçu. On est déçu. Parce que peu importe tous les matchs de sport qu'on aura regardés, hein, il n'y en a pas un quand on va mourir qu'on va être capable d'aller en haut et visionner en haut. Le sport en haut, il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Et que ce soit dans d'autres domaines, hein, je prends le sport. Hein, j'ai eu des problèmes avec le hockey, moi aussi. Hein, j'étais un fan de hockey. Hein. Au Canada, on vient au monde avec des patins dans les pieds. Hein. Et quand je suis venu au Seigneur, bien, la même chose. Hein, je regardais des matchs. Hein. Oui, mais quel temps je perdais? Une heure et demie là. Une heure et demie là. Et tu prends 15 minutes dans ta Bible, tu es épuisé, quoi. Hein? Le Seigneur fait juste te montrer tes priorités. Hein? Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Hein? Ouais. Maintenant, je ne porte pas de jugement. Hein? Il y a des gens qui sont capables de regarder deux matchs durant le mondial en ligne. Hein? Calculez les commerciaux, calculez les périodes, calculez tout. C'est tout près de 5 heures, ça, devant la télévision. Hein? Ouais. Mais ils n'ont jamais le temps. Jamais, jamais le temps. Là où est votre trésor, hein? Là où est votre cœur, chers amis. Hein? On ne peut pas se tromper avec ça. Je ne suis pas en train de vous juger. Si c'est votre cas pour 2017, eh bien, demandez donc au Seigneur de changer ça en 2018 et de faire en sorte que le plus beau sport que vous pouvez pratiquer, c'est de patiner dans la parole, c'est de courir dans la course que Dieu vous appelle à accomplir pour sa gloire. Dans les versets 46 à 50 du chapitre 24 de l'Évangile de Luc, parlant à ses disciples, Jésus leur dit, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom. Frères et sœurs, vous avez exactement le message évangélique ici. Regardez ce qu'il dit, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Oui, oui. Le message évangélique, c'est la repentance et le pardon des péchés. Actes chapitre 3, verset 19, « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Effacés, ça prend les deux éléments. Et c'est un message qui n'est pas facile à entendre pour des gens qui vivent à l'extérieur, quoi. Alors, tout le monde s'embrasse à l'extérieur. Tout le monde pleure, on s'embrasse, on est content de se rencontrer. Ouais, ouais. Mais souvent, c'est une mascarade, c'est une façade. Hein. Et mais de prêcher la repentance aux gens, c'est pas évident. Et si le Seigneur avait voulu se faire aimer, il aurait mis de côté ce message-là. Hein. Il aurait dit, moi, je viens juste vous parler uniquement que Dieu vous aime. Hein. Peu importe ce que vous faites, Dieu vous aime. Ouais, mais c'est pas ce qu'il dit, hein. Si vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu, vous devez vous repentir et vous devez vous convertir. C'est ce que le Seigneur est venu. Et comme récompense, vous savez ce qu'il y a eu? Il n'a pas reçu le prix Nobel de la paix. Hein? Il a été sur la croix, il a été crucifié pour que nous, on puisse entrer en paix avec le Dieu créateur. Ça, c'est ce qu'il a fait. Alors, frères et sœurs, le seul trophée qu'on peut recevoir hein, en Jésus-Christ, c'est la couronne de victoire. Amen? Oui. Ouais. Rapidement. Être béni par Jésus, cela veut dire recevoir la faveur et la bonté de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Quand Jésus bénit, hein, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est que vous receviez la faveur et la bonté de Dieu. Ouais. Rappelez-vous, hein, dans Luc 24, quand il est monté au ciel, pas dans Luc 24, quand il a vu ses disciples, hein, ouais, eh bien, il a levé les mains et il les a bénis. Ça voulait dire quoi, ça? Je viens de vous donner une mission, allez proclamer l'Évangile. Eh bien, ça veut dire quoi? Recevez la faveur et la bonté de Dieu dans votre ministère maintenant que vous êtes appelé. Et il bénit son Église aujourd'hui. Et c'est la même chose pour nous. Si ses mains sont une sécurité pour nous, si elles sauvent, si elles guérissent et si elles bénissent, les mains du Seigneur Jésus nous rappellent combien, frères et sœurs, il nous a aimés. Thomas a appelé dixième. Jean 20, chapitre 20, versets 24 à 28 pour ceux qui ont leur Bible. Jean chapitre 20, versets 24 à 28. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur, Thomas. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas dans mon doigt, dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées. Il se présenta au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Thomas! » Viens ici, Thomas. Avance ton doigt. Regarde mes mains, Thomas. Et avance aussi ta main. Il met la dent dans mon côté. Mets-la dans mon côté où on m'a transpercé avec la lance, Thomas.
Ouais.
Mais ne sois pas incrédule, Thomas, mais crois.
Ouais.
John R. Moreland a écrit un poème dans lequel il dit à peu près ceci. Les mains de Jésus peuvent sembler très fragiles parce qu'elles ont été percées par un clou. Mais elles sont suffisamment solides pour tenir la main de celui qui tient la sienne, pour marcher avec lui sur la terre et le conduire au ciel. Je ne sais pas exactement quand, mais lorsque j'arriverai au ciel, je demanderai à voir ses mains qui portent toujours les empreintes de ses clous. Et lorsque je me prosternerai aux pieds du Seigneur Jésus, je regarderai les marques laissées par les clous sur ses pieds, afin de me rappeler que si j'ai accès à dans la présence de mon Seigneur pour l'éternité, c'est grâce à ce qu'il a fait pour moi. Et frères et sœurs, Jésus-Christ, il ne changera pas. Il ne faut pas oublier que Jésus-Christ est monté avec son corps au ciel. Hein? Un corps glorifié, mais il est monté avec son corps au ciel. Hein? Ce n'est pas un fantôme, hein? Ce n'est pas un esprit. Hein? Il est monté avec son corps au ciel. C'est ça la résurrection. Hein?
Oui.
Ouais. Et toute l'éternité, je l'ai déjà dit il y a quelques semaines, et toute l'éternité, on va voir les traces des clous dans ses mains, dans ses pieds et dans son côté. Simplement pour nous rappeler que si on jouit du paradis pour l'éternité, ce n'est pas grâce à ce qu'on a fait, c'est grâce à ce que lui a accompli pour chacun de nous. Et quand le matin, on se lèvera, puis si on réussit à croiser Jésus, eh bien, il viendra nous prendre dans ses mains. Et aussitôt qu'il va nous prendre dans ses mains, la première chose qu'on va voir, c'est les marques de ses clous. C'est les marques des clous dans ses mains. Et il va nous serrer.
Ouais.
Ouais. Et si on se met à pleurer, puis on penche la tête sur son épaule, on verra les marques des clous dans ses pieds.
Ouais.
Et si on le serre, on verra à un moment donné, si on veut le serrer contre nous, whoop, on verra qu'il y a quelque chose, il y a un petit creux ici, et ça nous rappellera le coup de lance que le soldat romain lui a donné. Chers et sœurs, les mains du Seigneur Jésus nous rappellent combien il nous a aimés. Frères et sœurs, lorsqu'il reviendra, nous le verrons avec les marques laissées par les clous dans ses mains et dans ses pieds, ainsi que par la lance dans son côté. Lorsque nous serons au ciel, nous pourrons les voir pour l'éternité, afin que nous puissions nous rappeler l'amour que notre Seigneur éprouve pour nous et a éprouvé pour nous. Si ses mains sont une sécurité pour nous, si elles sauvent, si elles guérissent, si elles bénissent, si elles nous rappellent jusqu'à quel point il nous a aimés, les mains de Seigneur Jésus-Christ ressuscitent les morts. À une occasion, un dirigeant juif vint vers Jésus pour lui demander de l'aider. Il s'y met à genoux devant Jésus et lui dit, « Ma fille est morte, Seigneur. Il y a un instant, mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. » La maladie avait fait son œuvre et la jeune fille était morte. La mort avait saisi sa vie avant que Jésus atteigne la maison. Et de la même manière, combien de personnes avons-nous dans nos maisons de repos, dans nos communautés, dans nos quartiers qui sont mortes spirituellement? Combien y a-t-il de gens qui peuvent vivre sans la prière, alors que la prière est le souffle de l'âme, et nous pouvons affirmer avec certitude que là où il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de vie? Combien y a-t-il de gens qui n'ont pas la foi, alors que la foi est la force spirituelle de l'âme? Combien y a-t-il de gens qui ne sont pas actifs pour servir le Seigneur, qui n'œuvrent en rien pour que le royaume de Dieu progresse, et qui ne se soucient même pas si Dieu est glorifié ou non? Nous pouvons affirmer que ces gens sont morts, et que dans de tels cas, il n'y a aucun espoir pour eux, à moins que Jésus vienne et ne pose sa main sur eux. Ma fille est morte il y a un instant, de dire ce dirigeant religieux. Mais viens, pose ta main et elle vivra. La main de Jésus, frères et sœurs, ressuscite les morts. Elle était l'instrument et le symbole de la toute-puissance et de la miséricorde de Dieu. Il est écrit que Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Il arriva à la maison du dirigeant, entra dans la chambre, saisit la fillette par la main et elle se leva. Le contact de sa main avec le corps de la fillette la ramena à la vie, lui donnant la force et la remit sur pied. Et frères et sœurs, cela n'a pas changé aujourd'hui. Le psalmiste dit au verset 15 et 16 du psaume 145, « Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. » Frères et sœurs, est-ce que vos mains sont... Dieu ouvre ses mains pour rassasier tout ce qui vit sur la terre. Est-ce que vos mains sont ouvertes pour venir à une personne qui est dans le besoin et que Dieu veut conduire vers vous ce matin? Est-ce que vos mains sont ouvertes pour soutenir son œuvre dans le monde? Chers amis, comme Jésus, nous sommes appelés à utiliser nos mains pour aider les autres. Comment nos mains peuvent-elles devenir une bénédiction pour les autres? En essuyant simplement le front d'une personne qui est fiévreuse, en cuisinant simplement un repas pour une personne qui vit seule, en écrivant simplement un mot d'encouragement à quelqu'un qui est déprimé, en offrant simplement des fleurs à un voisin qui n'a jamais de visite, en frappant simplement à la porte de quelqu'un qui a besoin d'être encouragé. Frères et sœurs, en nous oubliant simplement pendant quelques minutes et en pensant à l'autre. Voilà comment nos mains peuvent donner une bénédiction. Et voilà la façon dont Dieu ouvre ses mains. Voilà la manière dont Dieu bénit. Dieu veut rassasier tout le monde. Et vous savez, dans ce que je viens de vous énumérer, ça nous demande de faire un effort. Ça nous demande de faire un effort. Surtout moi, ça ne me tente pas de faire de la soupe pour un autre. J'ai de la misère à m'en faire pour moi. Mais si mon voisin n'a pas de soupe, est-ce qu'en tant que chrétien, ce n'est pas mon devoir de faire deux soupes, deux bols de soupe? Et plutôt que d'en donner juste un, en amener deux, dire, écoute, est-ce que ça vous dérange que je viendrai prendre mon dîner avec vous? Quelqu'un qui n'a jamais de visite, quoi. Chers amis, vos mains peuvent accomplir le travail du maître tous les jours de la semaine. Je peux voir les mains rugueuses de notre Seigneur jointes ensemble, les doigts pointés vers le ciel, alors qu'il prenait le temps d'implorer son Dieu, de bénir l'œuvre de ses mains et d'envoyer des ouvriers dans la mission, dans la moisson. De rassembler Jésus sur mon espoir suprême, dit le cantique. Avoir le même toucher, démontrer la même générosité en ayant les mains tendues vers les autres, comme c'était le cas pour le Seigneur Jésus, devrait occuper constamment nos pensées en 2018. Jetez un regard sur vos mains. Regardez vos mains maintenant. Regardez vos mains. Je vais vous faire un petit exercice là, ce matin. Penchez vos têtes. Regardez vos mains. Regardez, mettez vos mains en avant de vous. Là. Bon. Allez, un petit exercice. Je ne vais pas demander de lever des poids, parce que c'est plus difficile comme ça. Mais juste comme ça. Regardez vos mains ce matin. Regardez-les là. Êtes-vous capable de dire à Dieu, « Prends ces mains, Seigneur, et utilise-les pour ta seule gloire en 2018. » Êtes-vous capable de faire ça ce matin? Et Seigneur, je te donne le mandat de faire en sorte, je te le promets que je vais le faire, et je te donne le mandat de faire en sorte d'utiliser tous les moyens nécessaires pour que mes mains soient utilisées pour ta seule gloire en 2018. Amen. Amen. Ceux qui ont dit Amen, là, je peux vous garantir une chose, Dieu va agir dans votre vie. Ouais. Dieu va vous prendre au mot. On ne prie pas pour rien. On ne prie jamais pour rien. Ouais. Dieu va vous prendre au mot. Un de mes passages favoris concernant Jésus, c'est celui où il lave les pieds de ses disciples afin de les apprendre à être des serviteurs. Dans la culture juive, laver les pieds poussiéreux des gens était vu comme le pire emploi que vous pouviez avoir. Pourtant, Jésus s'est mis à genoux, à laver et sécher avec douceur les pieds de ceux qu'il aimait le plus, et les a ensuite exhortés à faire la même chose en son nom. En fait, il leur a dit clairement dans Jean chapitre 13, verset 14-15, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Et quel est l'exemple qu'il nous a donné? Moi qui ai le Seigneur et le Maître. Si moi qui ai le Dieu Tout-Puissant, si moi qui ai le Créateur qui s'est fait homme, j'ai su m'humilier devant de simples mortels pour le laver les pieds, à combien plus forte raison dans le royaume de Dieu? L'humilité doit régner et non pas l'orgueil. Vous êtes tous les serviteurs les uns des autres. Et on est tous appelés à se laver les pieds les uns les autres. C'est une image, Spirituellement parlant, ça veut dire quoi? Toujours voir notre frère supérieur à nous-mêmes. C'est ça le royaume de Dieu. Et ça fait tomber l'orgueil, Et des leçons d'humilité, Dieu nous en donne régulièrement dans son Église et dans son royaume. En cherchant à trouver l'œuvre importante que je peux accomplir pour le royaume de Dieu, je néglige parfois les occasions pour faire des petites choses qui peuvent paraître insignifiantes à mes yeux. Mais lorsqu'elles sont faites avec amour et reconnaissance pour ce que le Seigneur a accompli pour moi sur la croix, cela le glorifie. Passer de la soupe, ce n'est pas grand-chose, C'est pas grand-chose. Mais est-ce que vous savez qu'à travers la soupe, il y a plus de monde qui sont venus ici en un an que pendant les 4-5 ans qu'on fait mission vacances? Parce qu'à mission vacances, on les invite à une conférence. On essaie de parler avec eux. Mais avec la soupe, on touche les gens avec ça. Il y a M. Alexandre qui est venu, qui avait deux enfants quand je suis venu pour la spaghetti. Et il me dit, maintenant, je me sens obligé de prendre la soupe. C'est extraordinaire, ça. Et j'ai dit, il n'y a personne qui vous oblige à dire oui. Il dit, je suis plus capable de dire non. Pourquoi? Parce qu'à travers la soupe, là, il a appris que les chrétiens, c'était des gens ordinaires. C'était des gens comme lui et moi, comme lui. C'était des gens qui n'étaient pas payés pour faire ça. C'est des gens qui le faisaient parce qu'ils aiment les gens. Et ça, là, ça reflète vraiment la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas payé pour faire ça parce qu'il savait que c'est lui qui payerait. Hein. C'est lui qui payerait. Hein. Il n'était pas payé pour faire ce qu'il a fait. Hein.
Ouais.
Au contraire, c'est lui qui a payé de sa vie. Hein.
Ouais.
Et il veut nous montrer un peu la même chose ici. Es-tu capable en 2018 de payer une petite parcelle de ta vie pour le royaume de Dieu?
Ouais.
Pour que mon royaume puisse progresser. Servir une soupe, n'importe qui est capable de faire. Parler de l'Évangile, ce n'est pas tout le monde. Et souvent, ça prend plusieurs soupes avant qu'on parle de l'Évangile.
Ouais.
On n'est pas là pour embarquer les gens non plus. On est là pour les servir. Et s'ils sont intéressés, ils vont nous faire rentrer, comme Boris a dit. On n'est pas là pour forcer les portes. C'est Dieu qui agit à travers nous. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu agit à travers la soupe aussi.
Ouais.
Et Dieu agit à travers vos mains. Parce que quand vous offrez la soupe à une personne, c'est votre main qui offre cette soupe au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et on doit dire, sans faire de trop de publicité, que toutes les soupes sont excellentes. N'est-ce pas, Boris?
Toutes les soupes.
Toutes les soupes sont bonnes. Les gens le disent, hein?
Oui.
Ouais. Frères et sœurs, la vie est une catastrophe et les gens sont de plus en plus compliqués. Se salir les mains, que ce soit au sens littéral ou au sens figuré, nécessite la volonté de s'impliquer au milieu des catastrophes et des complications qui surviennent quotidiennement dans la vie des gens. Et c'est exactement ce que Jésus nous a appelé à faire. « Ma fille est morte il y a un instant, » dit ce père à Jésus. « Mais viens, pose ta main. Viens, pose ta main sur elle et elle vivra. » Frères et sœurs, Jésus possède le pouvoir sur la vie et sur la mort, autant physique que spirituelle. La mort sous toutes ses formes s'enfuit quand il étend la main. Puis la vie apparaît, comme ce fut le cas pour l'enfant de ce dirigeant religieux. Frères et sœurs, ses yeux se sont ouverts, ses poumons se sont mis à gonfler. Elle a pu commencer à discerner les objets. Elle a pu retrouver son appétit. Ses membres ont commencé à se raidir. Ses oreilles ont commencé à entendre. Et elle a pris conscience qu'elle était revenue de la mort à la vie. Quelle joie pour le Père! Et quelle joie pour nous quand spirituellement nos enfants qui étaient morts spirituellement reviennent à la vie. Amen! Frères et sœurs, lorsque Jésus pose sa main sur quelqu'un qui est mort spirituellement parlant, il éclaire les yeux de son cœur pour qu'il puisse voir les choses merveilleuses qui se trouvent dans la parole de Dieu. Et il lui ouvre les oreilles afin qu'il puisse distinguer la voix du bon berger. C'est alors que son cœur fait monter des prières et des louanges vers Dieu. Il devient actif pour servir le Seigneur. Il cherche à lui obéir dans toutes ses voies. Et le fait de prendre conscience d'avoir été accepté par Jésus-Christ et d'être devenu son enfant remplit son cœur de joie et de paix. Oui. Le contact de Jésus produit toujours son effet. Et le résultat, c'est que les cœurs vivent pour Dieu. Ils sont désormais consacrés parce que lui plaire demeure pour eux une priorité jusqu'à la fin de leur vie. Sachant qu'il est un Père bon et aimant et que dans sa grâce, il pourvoira tous leurs besoins et qu'il les consolera dans les moments difficiles. Et la parole nous dit que Dieu est le Dieu de toute consolation, frères et sœurs.
Ouais.
Êtes-vous dans la tristesse ce matin? Venez lui apporter. Venez lui apporter. Il a déjà quelque chose dans sa main pour vous guérir, pour vous en débarrasser. Voilà ce que les pécheurs ont besoin. Ils ont besoin que Jésus vienne et pose sa main sur eux. Ils doivent être mis en contact avec Jésus ou périr. Ils doivent déverser sa main, c'est-à-dire sa parole ou sa puissance en eux, où ils demeureront morts dans leur péché. Jésus et lui seul peut rencontrer le besoin du pécheur. Toutes les autres formes de moyens humains sont impuissants sans lui. Mais par le seul contact de sa main puissante, il ouvre les yeux de ceux qui sont aveuglés par le péché. Il permet aux sourds d'entendre et il ramène ceux qui sont morts à la vie. Nous devrions prier pour que Jésus vienne parmi nous et manifeste sa puissance et sa grâce, car sans lui, frères et sœurs, ce que nous prêchons ne vaut rien et nos efforts ne valent à peu près pas grand-chose. Nous avons besoin de sa présence, sinon les morts resteront morts et ceux qui dorment resteront endormis. Mais si Jésus est en sa main, alors peu importe, même si les amuseurs sont là et que les gens font du bruit, il accomplira son œuvre et il accordera la grâce qui est nécessaire à ceux qui le désirent. Il en est de même pour ceux qui vivent une vie ennuyante et sans but. Ils ont besoin que Jésus pose leurs mains sur eux. Cela rallumera la flamme en eux et produira un merveilleux réveil dans leur cœur. Frères et sœurs, il y a tellement de gens qui rentrent ici, ce sont des estropiés de la vie. qui ont suivi toutes sortes de formes de... Marie-France, elle va se boucher les oreilles. Hein, qui ont suivi toutes sortes de thérapies. Mais c'est Jésus qui est le grand médecin. Et quand les gens entendent l'Évangile, ils entendent le Seigneur Jésus leur parler à travers l'Évangile, et qu'ils savent dans leur cœur, qu'ils sont convaincus que c'est la solution pour effacer toutes les blessures de leur passé, eh bien, les gens, ils prennent une décision pour le Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Je n'ai pas voulu insulter notre sœur Marie-France parce qu'on s'entend bien à l'étude biblique. Les thérapies, elles font... Les thérapies, c'est... J'ai jamais jeté dans les poubelles les thérapies. J'ai simplement dit que les thérapies, quand vous avez une blessure, elles forment une cicatrice dessus, elles ferment la blessure. Mais quand vous venez à Jésus-Christ, hein, le Seigneur Jésus-Christ, à travers l'Évangile, il enlève la cicatrice. Il enlève la cicatrice. Il n'y en a plus de traces de votre passé. C'est ça la nouvelle naissance. Hein? Ouais. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, donc je suis mort. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. C'est ce qu'il veut faire et c'est ça la vraie conversion. C'est ça la nouvelle naissance. T'es mort, toi d'être mort. Laisse-le vivre maintenant en toi, tu l'as invité à vivre en toi. Laisse-le vivre. Laisse-le vivre. Et tu vas voir ce qu'il va accomplir à travers toi. Mais si tu essaies par tes propres forces, tu t'obstines, eh bien, tu l'empêches d'œuvrer, tu l'empêches de travailler dans ta vie. Tu es mort. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Oui. Alors, ceux qui viennent à Christ, eh bien, le Seigneur renouvellera leur force, les rajeunira comme les aigles, ils courront et ne seront pas fatigués, nous dit le psaume 103, et ils marcheront sans se fatiguer. Voilà ce qui fera revivre l'Église, et c'est ce que notre époque a grand besoin, voir l'Église de Dieu remplie de vie, de lumière et d'amour. Alors, elle aura la capacité de faire la volonté de Dieu, elle percevra clairement les besoins du monde, et elle sera prête à œuvrer avec amour, à souffrir, à se sacrifier pour les autres, peu importe ce qui pourrait être nécessaire de faire pour leur bien. En terminant, la main de Jésus a ressuscité cet enfant et cette même main vous délivrera de la seconde mort. Il est capable de vous sauver du péché et de l'enfer. Vous avez donc toutes les raisons de croire qu'il désire vous sauver. Oui. Pourquoi ne pas venir à lui ce matin? Si ce n'est pas encore fait, pourquoi ne pas venir à lui? Le père de cet enfant l'a fait. Et il a vu Jésus accomplir un miracle. Oui. Et le Seigneur Jésus veut poser une main apaisante sur votre cœur ce matin. Oui. Il veut vous délivrer de ce qui vous empêche d'avoir cette joie et cette paix que le monde cherche à travers toutes sortes d'activités, à travers toutes sortes de loisirs et de plaisirs, mais qu'il ne trouve pas. C'est le vide de Dieu qui manque. C'est ça qui manque aux gens. Et Dieu veut combler ce vide-là en venant habiter en vous par Jésus-Christ. Oui. C'est peut-être compliqué à comprendre hein, ce matin, ça, mais c'est vraiment ça. Dieu veut faire un miracle dans votre vie. Oui. Dieu veut faire un ménage dans votre cœur. C'est ce qu'il veut faire. Il veut vous faire repartir sur de nouvelles bases. Si vous vous appelez Muriel, l'ancienne Muriel, il veut la faire mourir. Oui, mourir dans ses sentiments, dans ses émotions, dans ses blessures, dans tout ce qu'elle a vécu de mauvais, qui l'ont torturé. Et il veut lui redonner une nouvelle vie. Il veut faire rejaillir une nouvelle Muriel. Oui, partir de nouveau. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, moi, si je pouvais recommencer ma vie, ben oui, tu peux, hein. Ouais. Il me dit, je vais recommencer ma vie, je te dis qu'il y a bien des choses que je ne ferai pas. Mais tu peux, hein? Tu peux. C'est ce que le Seigneur nous demande, c'est ce que le Seigneur nous offre en Jésus-Christ. Hein? Il nous offre de commencer une nouvelle vie. Moi, j'ai 68 ans, mais en réalité, dans mon cœur, j'ai juste 35 ans. Hein? Ben oui, hein? Le vieux Jacques est mort il y a 33 ans. Hein? J'en ai 35. Peut-être pas sur la tête, mais j'en ai 35 dans mon cœur, quoi. Frères et sœurs, Jésus n'a pas l'habitude de rejeter ceux qui viennent à lui lorsqu'il s'adresse à lui. Il ne l'a jamais fait et ce n'est pas son intention de commencer à agir ainsi. Peu importe ce que vous avez fait dans la vie, même si vous êtes harcelé et rempli de doutes et de craintes, allez présenter votre cas devant le Sauveur. Racontez-lui le pire de ce que vous vivez, puis dites-lui, viens poser ta main sur moi et je vivrai. Il écoutera votre prière et il vous répondra favorablement. Rappelez-vous, lorsque Jean-Baptiste a présenté notre Sauveur au monde, il a dit ceci, et ça c'est fort ça, hein? Il tient en sa main la pelle à vanner et il séparera le grain de la paille. Il amassera son grain dans son grenier, c'est-à-dire au ciel, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. Ouais. Le monde se moque de l'enfer, hein? On raconte n'importe quel bobard sur l'enfer.
Ouais.
Mais moi, en tout cas, dans l'Évangile que je prêche, l'enfer existe. Et je sais une chose, c'est que Dieu a tout fait pour éviter l'enfer aux gens.
Ouais.
Et c'est les gens qui choisissent, hein, de passer l'éternité au ciel ou de souffrir pour l'éternité. Et Jésus a accepté, pour nous éviter d'aller en enfer, Jésus a accepté, lui, de vivre l'enfer pour nous. Il a pris sur lui tous nos péchés. Il les a pris sur lui à la croix. Et en retour, qu'est-ce qu'on reçoit? Eh bien, on reçoit la vie juste de Jésus-Christ. Et quand on comparait au ciel, parce qu'on a accepté le sacrifice de Jésus, quand on comparait au ciel, le Seigneur, il ne nous voit pas à travers notre vie de péché, puisqu'il a déjà condamné notre vie de péché. Il nous voit à travers Jésus-Christ. Notre dossier, il est blanc. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la présence de ton maître.
Oui, oui.
Mais si on va essayer de faire des œuvres, hein, il n'y a aucune seule bonne œuvre qui peut effacer un seul de nos péchés. On peut suer, on peut transpirer, on peut se couper les poignets. Il n'y a aucune bonne œuvre.
Oui.
Maintenant, vous voulez savoir combien ça prend d'œuvres, combien ça prend de péchés pour être empêché d'entrer au ciel? Je vais vous répondre par une autre question. Ça a pris combien de péchés à Adam et Ève pour qu'ils puissent sortir du jardin d'Éden, être chassés du jardin d'Éden?
Un seul.
Que celui qui n'a jamais péché ce matin, non pas menace la première pierre, mais lève la main. La parole dit qu'on a tous péché. Tous péché, Dieu veut tous nous sauver. C'est extraordinaire, hein? Et lui qui était sans péché, Dieu l'a fait donner péché pour nous, afin que par lui, nous puissions bénéficier de l'œuvre par laquelle Dieu nous rend juste à ses yeux. Et l'œuvre, c'est l'œuvre de la croix. Il n'y en a pas d'autre. L'œuvre de la religion, ça ne vaut rien. C'est l'œuvre de la croix. C'est ça qui est magnifique. Et ça, c'est un miracle, ça. C'est ça, c'est un miracle. Et l'Évangile, pourquoi on doit la prêcher? Parce qu'elle est la puissance dont Dieu se sert pour convertir quiconque croit. Pour convertir quiconque croit. C'est pour ça qu'on doit prêcher l'Évangile. Paul dit, ce n'est pas avec la sagesse humaine que j'essayais ou que je vous ai donné un message. C'est avec l'Évangile qui est la puissance pour quiconque croit.
Oui.
Transformer des vies. Amen.
Oui.
Jésus, la résurrection et la vie, il ressuscite les morts spirituels, il vivifie ceux qui se meurent, il ranime ceux qui sont découragés, il réconforte ceux qui sont tristes et il sauve ceux qui sont perdus. Si c'est votre cas ce matin, présentez-vous devant lui et plaidez votre cause. Vous en sortirez sauvés et bénis. Eh bien, on va faire une prière ce matin en terminant. Prions. Je vous invite à courber la tête, à fermer les yeux. Si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel ce matin, je vous lance l'invitation. Vous n'êtes pas obligé de la faire, c'est entre vous et le Seigneur, mais je vais simplement vous guider dans votre prière pour que vous puissiez avoir la certitude d'avoir prié, d'avoir dit les mots que vous devez dire. D'abord, la prière, elle commence ceci. On se courbe devant le Seigneur et on dit, « Seigneur, mon Dieu, je reconnais, Seigneur, que tu existes. Je reconnais, Seigneur, que tu m'as aimé au point, Seigneur, de te faire homme dans la personne de Jésus. Lui qui était juste, lui qui était sans péché, sans tache. Et que sur la croix, Seigneur, il a pris mon péché, moi qui est un pécheur, moi qui ai déjà eu une mauvaise pensée dans ma vie, une mauvaise parole, une mauvaise action. Je reconnais ce matin que cela suffirait, Seigneur, pour m'envoyer en enfer. Mais en même temps, quand je regarde Jésus qui est mort sur la croix pour moi, Seigneur, je veux te dire merci. Merci parce que toi, tu as accepté de prendre mes péchés sur toi. Et en retour, Seigneur, eh bien, de me défacer les miens, de me purifier et de faire en sorte que je devienne une nouvelle créature, une nouvelle personne. Une personne qui peut commencer une nouvelle vie, non pas en fonction des valeurs du monde, mais en fonction des valeurs de ton Évangile. Seigneur, transforme-moi, rends-moi semblable à ton image, afin, Seigneur, que je puisse aimer les autres comme toi tu m'as aimé, afin que je puisse servir les autres comme toi tu as servi, mais aussi qu'à travers mes paroles, Seigneur, les gens puissent être guéris comme toi tu as guéri. Seigneur, merci encore une fois pour ton Évangile. Merci ce matin parce que nous avons appris, Seigneur, différentes portions de ton amour. Et fais-nous grandir dans cet amour, afin que nous puissions porter beaucoup de fruits, et ce, pour l'éternité. Et c'est en Jésus que je te prie. Le peuple de Dieu dit, Amen. Je vous invite à vous lever, on va chanter un cantique.